C'est une étape qui marquera l'histoire du Tour de France, on l'a entendu, une étape sans vainqueur, interrompue avant l'arrivée à Tignes par un violent orage de grêle. Et c'est un Tour de France qui aura confirmé le réveil des Français au premier plan, malgré l'abandon de Thibaut Pinot sur blessure, malgré la perte du maillot jaune par Julien Alaphilippe, qui l'aura quand même gardé 2 semaines. On n'oublie pas Romain Bardet, qui porte le maillot du meilleur grimpeur, et Warren Barguil, 3e tout à l'heure au sommet de l'Iseran. Ce 106e Tour de France n'aura pas été tout à fait comme les autres, toujours aussi populaire, comme l'ont montré les foules qui se pressent au bord des routes et des audiences télévisées de l'après-midi, avec à 2 jours de l'arrivée à Paris, un vrai suspense qui perdure. Comment expliquer ce regain d'intérêt? Les années noires du cyclisme sont-elles vraiment oubliées? Pour en parler en direct de Tignes, Bernard Thévenet, qu'on ne présente plus, double vainqueur du Tour de France en 75 et 77. Bonsoir à vous Bernard Thévenet.
Oui, bonsoir.
Jean-François Bernard, ex-vainqueur de Paris-Nice, 3e du Tour 87, consultant cyclisme pour France Inter et France Info. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Également avec nous, Marc Madiot, président de la Ligue nationale de cyclisme et manager de l'équipe Groupama FDJ, l'équipe dont Thibaut Pinot était le leader. Bonsoir Marc Madiot.
Bonsoir.
Et puis nous retrouverons bien sûr également Fabrice Rigobert, manager de l'équipe de France Inter sur ce tour. Le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions et commentaires au 01 45 24 7000.
Yves Decamps. Le téléphone sonne.
Alors avant toute chose, je reviens vers vous Marc Madiot. On a entendu hein, Thibaut Pinot et son énorme déception. Pas facile à gérer comme situation pour le manager que vous êtes.
Bah, vous savez... Des situations difficiles quand on fait ce métier, on en rencontre assez souvent. Donc quand on est dans la joie de la victoire, c'est toujours plus simple et plus facile. Mais quand on rencontre des moments plus délicats en course, quelle que soit la compétition, il faut essayer de faire face, de permettre aux coureurs de se reconstruire et puis de repartir de l'avant, parce qu'on est avant tout des compétiteurs. Et on est là pour faire des courses et faire les meilleurs résultats possibles. Donc il y a des moments plus délicats que d'autres. C'est une journée difficile pour nous. Mais Thibaut est un coureur, contrairement à ce qu'on pense, qui a beaucoup de mental. On a dit qu'il n'avait pas un mental très très fort pendant une certaine époque, mais je pense qu'à travers toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, il a toujours su rebondir. Donc je pense que c'est au contraire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force en lui. Et,
mais il n'est plus là.
Une seconde qu'il va revenir.
Mais il n'est plus là. Comment vous allez gérer là, les 2 jours qui restent au niveau de l'équipe?
Mais l'équipe, on va continuer notre chemin. Il y a une étape à disputer demain. On essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes et on terminera le tour à Paris avec 7 garçons qui auront eu l'impression et le sentiment d'avoir donné tout ce qu'ils avaient en eux. Et je n'en doute pas une seconde. Donc, on va continuer à se battre parce que la route continue. La course n'est pas terminée.
Alors, votre sentiment général, les uns et les autres, sur cette étape tout à fait inédite, hein, étape interrompue, on a vu les coureurs en colère, hein, quand on leur a demandé d'arrêter. Ils ont ensuite compris le pourquoi de la chose. Mais comment vous avez vécu ça, les uns les autres?
Bernard.
Oui, je pense tout à fait que les coureurs étaient en colère tant qu'on leur a pas montré les images de ce qui se passait par la suite. C'est vrai que moi j'étais un peu à l'avant de la course et quand j'ai traversé Val d'Isère, j'ai entendu que la course était arrêtée. Sur le coup, j'ai dit bah mince quand même. Bon, il y avait de la glace. Oui. Un peu sur la route, un peu sur les côtés, mais c'est après à la sortie de Val d'Isère, à la sortie du tunnel, c'était impraticable. Il y avait 10 cm de grêle à la sortie du tunnel. C'était impossible, on pouvait pas mettre des coureurs cyclistes et des vélos là-dessus. Ouais, même les motos ne pouvaient pas passer. Alors,
ouais, c'était la catastrophe
pour la meilleure solution
pour les coureurs.
Et la meilleure solution, c'était de prendre les temps au sommet de l'Iseran, parce que ça aurait été complètement idiot de faire prendre des risques aux coureurs dans la descente pour les arrêter ensuite à Val d'Isère.
Mais les temps ont été pris à la main, je crois, parce que c'était pas prévu. Donc comment ça marche?
Non, écoutez, là, c'est un peu une... Normalement, ils ont les transpondeurs et tout, donc je ne sais pas si là où, en haut de l'Iseran, ils avaient la faculté de prendre les temps. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, les temps qu'on a ce soir, puisque pour l'instant, le classement général n'est pas complètement établi, on a les 3 premiers, simplement. On sait simplement que, Bernal est en jaune ce soir, pour l'instant, avec l'arrivée là-haut, les temps pris en haut du col de l'Iseran. On sait qu'Alaphilippe est toujours à la 2e place, donc toujours sur le podium, et puis Geraint Thomas à la 3e, avec un petit peu plus d'une minute et 45 secondes, je crois, pour Alaphilippe.
Alors, le problème... Oui, allez-y.
Oui, je veux dire, en haut de l'Iseran, C'est un, évidemment, ça compte pour le prix de, du meilleur grimpeur en prix de la montagne. Et il y a forcément un juge à l'arrivée. Donc le juge à l'arrivée est également chronométreur. Il est tout à fait capable de prendre les numéros des dossards avec, avec les temps.
D'accord.
C'est pas quelqu'un comme ça qui prend les temps. Je vous rassure tout de suite, c'est officiel.
Merci à vous, premier auditeur de ce téléphone sonne, qui nous appelle d'Angers, c'est Yvonique. Bonsoir à vous, Yvonique.
Oui, bonsoir tout le monde.
Allez-y, nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, moi c'est pour donner un avis évidemment plus que positif sur sur nos coureurs français, parce que bon bah voilà, aujourd'hui, bon malheureusement on a la perte du maillot jaune par Julien Alaphilippe, mais je pense que voilà, il s'est retrouvé un petit peu avec le maillot jaune. C'était pas quelqu'un qui à la base devait jouer évidemment le classement général. Il s'est retrouvé avec le maillot jaune et évidemment, bah, quand c'est comme ça, quand on a le maillot jaune, je pense sur les épaules, bah, on le défend jusqu'au bout. Et grâce à ses talents, que ce soit de grimpeur, mais aussi de défendeur, hein, on l'a encore vu. Aujourd'hui, il nous a fait vibrer. Et puis à côté de ça, bah, on a un Thibaut Pinot qui malgré le fait que malheureusement il abandonne aujourd'hui, bah, pour moi, c'est le coureur qui, notamment dans les Pyrénées, était le plus fort. Je pense que beaucoup d'auditeurs seront d'accord avec moi, mais voilà, on l'a vu avec notamment sa victoire sur le Tourmalet. Il était le plus fort. Et malheureusement, bah voilà, il joue de malchance, je dirais une nouvelle fois, en se blessant hier, en abandonnant aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, et puis on faut pas oublier aussi Romain Bardet qui, bon, il y a encore deux, trois jours, était un petit peu dans la difficulté, mais qui aujourd'hui peut ramener quand même le maillot à poids du Tour de France sur les Champs-Élysées. Ben voilà, enfin, on a des coureurs français qui sont plus qu'au niveau aujourd'hui, malheureusement, et je dirais peut-être heureusement aussi. Enfin, on a en face le team Ineos qui est plus que très 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 fort.
Voilà, un connaisseur, Yvonique. Alors on l'a dit, effectivement, ce tour marque le retour au sommet des Français, qui ne date pas de cette année. Hein. Il avait déjà été esquissé ces dernières années, mais il se concrétise vraiment cette année. Jean-François Bernard.
Et je crois qu'on va pas remettre en cause, même par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui, que ce soit l'abandon de Thibaut Pinot ou la perte de maillot de Julien Alaphilippe, de la constance des Français. Le Tour, quoi qu'il arrive dimanche, restera un beau Tour de France. Tout le monde le dit, quand vous êtes au village le matin, vous êtes le soir à la ligne d'arrivée, on a vécu un Tour qui était beau, on a vécu un Tour avec des Français qui étaient offensifs, qui ont joué jusqu'au bout, on va dire, même s'il reste encore demain, jusqu'au bout pour la victoire finale et les podiums, donc ne remettons pas en cause de ce qui s'est passé. Je crois que on sait très bien qu'on a une très bonne génération de coureurs. Oui. Il y a déjà un moment qu'on le sait. Après, on est dans le Tour de France. C'est compliqué de conclure, comme je dis. Vous savez, le Tour de France, dès que vous avez un petit problème, il est multiplié par 10 pour tout, hein. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais sens. Donc,
Il n'y avait pas eu de Français en situation de gagner depuis Bernard Hinault, disons-le.
C'est clair, c'est ce qu'on répète depuis qu'on est parti, voilà. Depuis qu'on a retrouvé cette situation-là. Mais de toute façon, ça reste encourageant, bien entendu.
Mais qu'est-ce qui explique ce renouveau ? Marc Madiot, par exemple.
Ce renouveau, d'abord, certainement, je vais laisser parler Marc après, mais déjà, on n'avait pas Christopher Froome au départ, donc ça change certainement beaucoup de choses. On sait aussi qu'on a un coureur qui, à mon avis, va peut-être dominer le Tour de France ces prochaines années, c'est celui qui est en jaune ce soir. On espère que ça ne sera pas un règne de 4-5 ans, parce qu'on va encore s'ennuyer un moment. Mais je crois que là, les coureurs français et d'autres ont trouvé aussi qu'il y avait une faille peut-être dans le système Ineos, même si pour l'instant, ce soir, c'est eux qui ont encore raison.
Marc Madiot ?
Bah, il y a des bons coureurs en France, donc il est tout à fait logique et normal qu'on puisse les retrouver dans le haut du classement, notamment en dernière semaine du Tour de France. Donc il y a une belle densité de coureurs français de qualité. Après, il nous faut un petit peu de circonstances favorables peut-être pour aller chercher le Graal, mais faut pas désespérer, il faut continuer à se battre, à s'accrocher, puis peut-être que ça viendra le jour où on y pense le moins.
Mais comment elle émerge, cette nouvelle génération de coureurs français ? C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est un travail de fond depuis plusieurs années.
Vous savez, déjà il y a un il y a un atout non négligeable pour faire un champion, il faut que la génétique soit au rendez-vous. Et vous pouvez mettre en place toutes les structures, toutes les organisations de détection ou de formation ou d'entraînement que vous voulez. si vous n'avez pas quelqu'un avec un capital génétique exceptionnel, ben vous n'arriverez jamais à rien. Donc la première des choses, c'est d'avoir des gens qui ont du talent et puis qui font du vélo. Donc c'est pas forcément évident. Et vous savez, on parle beaucoup des Colombiens aujourd'hui, mais pour l'instant, les Colombiens n'ont jamais gagné le Tour de France. Et bon nombre de pays cherchent et recherchent des champions dans toutes les disciplines, dans tous les sports. Aujourd'hui, le cyclisme est un sport mondial. On vient de tous les horizons pour essayer de remporter cette course ou d'autres courses. Et ça ne vient pas en claquant des doigts, mais la première des bases, c'est une bonne génétique. Il faut vraiment avoir des gens avec un potentiel hors norme. Après, bien sûr, des structures qui sont capables d'accompagner ces jeunes talents et ces jeunes coureurs. Mais ça se crée pas en 5 minutes. Et il faut à la base, il faut du talent.
Marie-Thérèse nous appelle du Rhône. Oui. Bonsoir à vous, Marie-Thérèse.
Allô ?
Allez-y, nous vous écoutons. Marie-Thérèse ?
Allô ?
Oui. Marie-Thérèse ne nous entend pas. Je vais donner la question à sa place. Marie-Thérèse, vous m'entendez ou pas ?
Allô, oui, je vous entends.
Alors allez-y, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. C'était sur la question de la température. Je trouve que c'est inhumain de faire partir les coureurs entre midi et 1h de l'après-midi. Je pense que c'est uniquement pour une question publicitaire, une question d'argent. Parce que quand il fait 40 degrés...
Mais vous diriez que les courses partent à 6h du matin ?
Mais ils pourraient partir plus tôt, sans partir à 6h du matin, ils partiraient vers 7h30, 8h. Mmh. Ils auraient déjà fait une bonne partie de l'étape avant midi.
Question d'organisation, qui peut répondre à cela ? Bernard Thévenet, Marc Madiot ?
Oui, bah moi déjà je pensais, oui. Si on faisait un départ à 7h30, ça veut dire que les coureurs se lèvent à 4h du matin. Je pense que ça les gênerait aussi. Si on veut faire une arrivée plus tardive, ils partiraient en pleine chaleur autour de 13h, 14h.
Donc ce qui était le cas aujourd'hui.
C'est compliqué. Alors, c'est compliqué de partir en dehors de la chaleur quand on est au mois de juillet. Hein.
Alors, on a noté que les étapes sont quand même un petit peu plus courtes. Il y a eu des années où elles étaient longues, avec plusieurs cols à escalader. On est devenu plus raisonnable, disons.
Le premier Tour de France que j'ai fait, moi, il y avait 4500 km et on n'avait même pas de jour de repos. C'était en 70, à partir de 71, il y a des jours de repos, et il y avait 28 étapes en plus, hein, 3 semaines. Donc ça veut dire que chaque semaine, on avait deux fois des demi-étapes. C'était plus long, mais on roulait moins vite. Hein. Donc l'un dans l'autre, c'est la même chose. Hein. Ce qui est dur, ce ne sont pas les étapes, hein. c'est battre l'adversaire qui est difficile, mais les étapes, finalement, c'est comme un col. Hein. On demande souvent le col le plus dur. Le col le plus dur, c'est quand on a affaire à un adversaire coriace. Hein. Ben voilà, exactement, Marc. C'est ce que quelqu'un nous fait monter le plus vite.
Vous savez, en parallèle du Tour de France, il y a des dames ou des demoiselles qui font le même parcours que les coureurs avec 24 heures d'avance. Mais elles font le même parcours. Donc, elles le font certes moins vite, mais tout le monde peut faire le Tour de France. Éric Fotorino, un écrivain célèbre, a parcouru le Tour de France en amont, à son rythme, à sa vitesse à lui. Donc on est tous capables de faire le Tour de France, sauf qu'on ne le fait pas tous à la même vitesse. Et c'est là où se fait la différence et la difficulté.
Alors vous évoquez le Tour de France féminin, qui a disparu du calendrier international. Hein. Il y a eu une étape sur le parcours du contre-la-montre de Pau, pour les féminines, hein, vendredi dernier, c'est ça. Mais c'est tout. Alors justement, j'ai une question là-dessus, un mail. Quelqu'un qui nous demande s'il ne serait pas possible de remplacer les femmes qui sont des objets potiches, ces femmes qui remettent les maillots et font des bisous aux coureurs. La ministre Marlène Schiappa elle-même a dit qu'elle trouvait cela un peu suranné. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoutez, je crois que ça a toujours fait partie du Tour de France. Je préfère quand même que ça soit une demoiselle, même à mon époque, qui me remette le bouquet, qu'un garçon. Je crois qu'il n'y a rien de... Elles font pas plus potiche.
Et puis les garçons peuvent aussi remettre des gerbes aux demoiselles quand c'est...
Exactement. Mais je crois qu'on a déjà parlé de cette discussion-là. Ça fait un an et demi que ça traîne un peu dans les tuyaux, comme je dis. Je crois que voilà quoi. C'est très bien comme ça. Et j'espère que ça continuera.
Je crois pas que les demoiselles qui font ce travail se plaignent.
Non, pas du tout.
De leur mission.
C'est leur travail et leur mission. Hein.
Mais pourquoi le Tour de France féminin, d'ailleurs, a-t-il disparu ?
Alors, je crois qu'il a disparu parce que, pour des raisons d'organisation, parce que ça faisait bloquer la route beaucoup trop longtemps. Déjà que là, on la bloque un peu avant la caravane. Et aussi parce que à l'époque, le niveau était très disparate chez les féminines. Et moi, je me rappelle dans les années 88, il y a des moments où les, bon, peut-être que l'horaire avait été mal calculé, mais la caravane était obligée de presser le pas parce que les coureurs professionnels arrivaient derrière. Et finalement, elle rattrapait quelques éléments du peloton féminin. Donc, c'était pas une bonne image pour le cyclisme féminin que d'arriver au milieu de la caravane.
Oui, problème de médiatisation aussi, peut-être, et d'audience, comme l'a dit Christian Prudhomme.
Le problème de la médiatisation pour le cyclisme féminin, il est présent partout, hein, pas que dans le cyclisme d'ailleurs. Hein.
Mmh. Autre question qui nous arrive de Toulouse, c'est Pierre qui nous appelle. Bonsoir à vous, Pierre.
Bonsoir. Donc voilà, moi j'ai été un peu dérangé par ce qui s'est passé il y a deux jours où il y a deux coureurs qui ont été exclus. Tony Martin, c'est le deuxième, j'ai oublié son nom. Ils ont été exclus et quand on a entendu un peu l'ensemble des coureurs ou des directeurs sportifs, vu ce qui s'est passé, et même moi en tant que téléspectateur et en causant avec des amis, ils ont dit à la rigueur qu'ils reçoivent un carton jaune ou une réprimande, ça allait, mais il n'y avait rien qui avait été plus choquant que ça. Ils n'avaient pas été violents à s'insulter, descendre de leur vélo, se frapper comme quoi que ce soit. Et j'ai eu l'impression qui me dérangeait beaucoup, c'était que l'organisation a tout pouvoir. Que les coureurs apparaissent performants, on a l'impression qu'il n'y a pas de syndicat de coureurs qui peuvent, par exemple, sur ce genre de décision, intervenir en disant écoutez, bon d'accord, il s'est passé ça, mais ceci, cela.
Vous voudriez qu'ils se mettent en grève comme les footballeurs de l'équipe de France ?
C'est pas une question de grève, c'est qu'ils puissent avoir une place également dans l'organisation. Mmh. Par exemple, je prends l'exemple au niveau de aux États-Unis, la NBA, par exemple. Il y a eu une grève, un lockout qui a duré un bon moment, la moitié de la saison, pour imposer justement aux propriétaires de franchise que les joueurs puissent aussi avoir leur mot à dire, bien sûr financièrement s'y retrouver. Ce qui pourrait être aussi intéressant parce que ASO et le Tour de France, on sait que c'est quand même une machine qui financièrement génère énormément d'argent. Il y a des coureurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais il y en a d'autres, c'est pas évident pour eux. Donc est-ce que, autour de ça, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu au-delà d'être performant, parce que c'est l'essence du sport de haut niveau, c'est d'être performant, mais d'avoir une organisation dans laquelle les coureurs dans leur ensemble soient pris plus en compte et qu'on leur donne une place plus importante qu'être uniquement des personnes à qui, pour certains, on demande d'être performant et puis pour d'autres, on demande d'être des porteurs d'eau, que certains gagnent très bien leur vie, d'autres c'est pas toujours ça, parce que le sport de haut niveau, à part ceux qui passent à la télévision et dont on fait des choux gras, les autres c'est pas toujours facile et je trouve que dans le cyclisme il manque vraiment vraiment cette place à l'athlète.
Merci voilà. Pierre de ce commentaire. Marc Madiol, impliquer les coureurs davantage à l'organisation.
Chacun dans son rôle, hein. L'organisateur organise, les équipes participent et les coureurs sont sur le vélo et font la compétition. Après vous répondre, il y a un syndicat des coureurs au niveau national qui s'appelle l'UNCP, qui défend très bien les intérêts des coureurs. J'en suis le témoin, puisque moi je suis patron d'une équipe et que je suis aussi président de la Ligue. Donc le syndicat des coureurs est extrêmement efficace. Et dans les négociations qu'on peut avoir avec eux, notamment au niveau des salaires à minima pour chaque coureur, ils font bien leur boulot. Après, il y a aussi un syndicat au niveau international. Alors, il est peut-être un petit peu moins efficace que le syndicat national, mais c'est aussi aux coureurs de prendre la parole et de s'organiser entre eux à travers leur syndicat.
Mais leur syndicat,
les revendications, tout le monde a le droit d'en avoir et a le droit de défendre ses propres intérêts. L'organisateur défend ses intérêts, les équipes défendent leurs intérêts et les coureurs également.
Mais les syndicats, ils interviennent sur les règlements, par exemple.
Mais chacun a sa place. Il y a une fédération internationale qui est là pour faire les règlements. Qu'on ait chacun un avis sur tel ou tel point de règlement, je peux l'entendre. Mais il faut que chacun garde ses prérogatives. C'est le rôle de l'UCI que de mettre des règles de participation ou de réglementation en course. Pour revenir sur les deux coureurs qui ont été exclus, si on regarde l'ensemble des éléments qu'on a pu apercevoir concernant l'accrochage, pour ne pas dire plus, entre ces deux garçons, il me semble tout à fait logique et normal qu'ils aient été exclus.
Quant à l'organisation du peloton dont parlait notre auditeur, les leaders et les porteurs d'eau, ça a toujours existé. Hein.
Mais ça existera toujours, de toute façon.
Vous savez, dans tous les sports, il y a des grands et il y a des petits. C'est l'essence même de la compétition. Après, comme moi je dis souvent... quand on me pose la question, vous savez, on n'est pas obligé d'être coureur cycliste. Hein.
Certes.
On peut aussi faire un autre métier si on n'est pas satisfait de sa situation.
Yves.
Oui, Yves, Fabrice Rigobert oui. nous a rejoint.
Il y a un aspect qui est très intéressant dans cette observation de cet auditeur, c'est peut-être la répartition des fruits du cyclisme. Est-ce que ASO devrait peut-être donner un peu plus aux équipements?
Non,
mais
répondre.
C'est quelque chose qui revient
à la formation
et qui a été soulevé.
Bah, de toute façon, il est clair qu'ASO défend son patrimoine. C'est eux qui ont, il y a un peu plus de 100 ans, ça s'appelait pas ASO à l'époque, mais non. C'est eux qui ont créé et mis en place le Tour de France il y a un peu plus de 100 ans.
Amaury Sport Organisation.
Ils sont propriétaires de cet événement. On peut tout à fait comprendre de manière logique qu'ils défendent leurs propres intérêts. Ça me paraît une évidence. Après, que les acteurs qui participent à ce Tour de France sous une forme ou sous une autre puissent un jour ou l'autre avoir des revendications et des négociations avec ASO, ce qui est le cas, ça me paraît aussi normal et logique. Voilà.
Allez, on va en venir au sujet inévitable quand on parle de cyclisme et du Tour de France avec Thierry qui nous appelle de Craponne. Bonsoir à vous Thierry.
Bonsoir à vous. Y a-t-il un contrôle des substances illicites chez les coureurs sur ce Tour de France 2019 ?
Ah ben question simple. Alors
il y a des contrôles. Oui.
Il y a des contrôles. Hein. J'ai vu que ce matin un contrôle sanguin inopiné à 45 minutes du départ avait mis en colère les coureurs de l'équipe Jumbo-Visma. Hein.
Alors oui. En fait, on sur le Tour de France, depuis quelques années, Yves, la politique qui a été mise en place, c'était de donner la priorité au contrôle inopiné pour essayer, d'aller chercher les tricheurs là où ils étaient, parce que il y a effectivement des substances qui sont détectables, mais il faut faire le contrôle au bon moment. Donc c'est pour cela qu'on mise sur les contrôles inopinés. Il y a toujours des contrôles inopinés. Il y a toujours des contrôles des meilleurs du classement. Après chaque étape, ça ne varie pas. Et contrairement à certaines disciplines, le vélo reste très contrôlé.
Alors en ligne avec nous pour répondre sur ce point, Mathieu Théoran, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage. Bonsoir Mathieu Théoran.
Oui, bonsoir.
Alors effectivement, il y a beaucoup moins d'affaires depuis plusieurs années. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans les contrôles sur le Tour de France, enfin dans le peloton en général?
Par rapport aux années où il y avait des pratiques de dopage assez généralisées sur le Tour de France, il y a eu d'abord la mise au point du test de PO, il y a déjà un certain temps, ce qui a permis de dépister ce qui était une des principales méthodes dopantes à l'époque. Mais surtout, on a vraiment perfectionné dans tous les domaines les méthodes d'analyse, mais également la manière de cibler les contrôles. Et en particulier, on a énormément développé les contrôles avant le Tour. Avant les compétitions, ce qui permet de mieux garantir que sur le Tour, il y a moins de chances de trouver des cyclistes qui auront eu recours à des pratiques dopantes.
C'est une spécificité française, c'est particulièrement surveillé, je crois, en France, mais c'est pas partout pareil.
Alors, il y a des règles internationales, mais ce qu'il faut préciser sur le Tour de France, c'est que c'est d'abord... comme c'est une manifestation internationale, de la responsabilité de la Fédération internationale, l'UCI. Et l'UCI a eu la bonne idée de déléguer son programme antidopage à un organisme indépendant qui s'appelle la CADF. Et la particularité, c'est vrai, du Tour de France, c'est qu'il y a une collaboration très étroite entre cet organisme qui est chargé, comme c'est normal, qui est compétent pour cette course, et l'agence nationale que nous sommes. Ce qui permet d'avoir le regard croisé de deux organismes indépendants. Et comme vous le disiez, aussi bien du côté du cyclisme toutes ces dernières années que du côté de la France, nous sommes particulièrement rigoureux dans les méthodes que nous mettons en œuvre et surtout nous mettons les moyens pour réaliser des contrôles tout au long de l'année, avant le Tour et pendant le Tour, tous les jours, sur de nombreux cyclistes.
Avec un léger blocage malgré tout du côté de l'Agence mondiale antidopage.
Non, un blocage, non. À quoi faites-vous allusion?
L'UCI, par exemple, voudrait bannir les corticoïdes, je crois.
Ah oui, ça, effectivement, il y a une liste qui est fixée sur le plan, qui est valable dans tous les pays, dans tous les sports, pratiquement, à quelques très, très légères exceptions. Et il y a un débat, mais c'est depuis très longues années, sur le statut des corticoïdes. Mmh. Alors, il faut signaler qu'ils sont interdits, par voie générale, en compétition. Ils sont autorisés sous des formes, on va dire, locales, et ils sont autorisés en compétition. Et c'est vrai que la position de la France depuis des années, c'est de réclamer une interdiction beaucoup plus générale des corticoïdes, en tout cas ceux qui sont pris notamment par voie orale ou par injection.
Fabrice Rigobert, une question ?
Une observation, le cyclisme fait plus que les autres sports en matière d'interdiction de corticoïdes. Le cyclisme, il y a les équipes du mouvement pour un cyclisme crédible où eh bien, on a totalement banni l'utilisation des corticoïdes. Et quand un coureur prend des corticoïdes parce qu'il a besoin d'être soigné, il est mis de côté. Toutes les équipes devraient sans doute faire ça. Mmh. Mais il y a vraiment quelque chose de vertueux dans le cyclisme. On a aussi interdit les infiltrations, par exemple. Ce n'est pas le cas dans certains sports.
Mmh. Ben, on entend dire parfois que les autres fédérations sportives bloquent parce que c'est dans le vélo que le dopage a le plus de conséquences, dans les autres sports beaucoup moins. Qui veut répondre?
Oui, je veux répondre là. C'est tellement facile de dire ça.
Allez-y, Marc Madiot.
Je vous dis, c'est tellement facile de dire ça. D'accord. Parce que dans d'autres sports, pourquoi il n'y aurait pas du dopage? Vous savez,
justement, l'idée c'est que les autres sports bloquent les progrès du contrôle antidopage, justement, parce qu'ils ne veulent pas aller aussi loin que dans le cyclisme.
La question que l'on peut peut-être poser à Mathieu Théoran, c'est est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, que le cyclisme a fait sa révolution, et est-ce que cette révolution est faite aussi dans les autres sports?
Oui, c'est vrai que ça a eu beaucoup plus un impact médiatique, les affaires de cyclisme, les affaires de dopage en cyclisme, pardon. Mais Marc Maillot a raison. Le cyclisme a fait sa révolution. C'est encore un sport très vulnérable parce qu'effectivement, le bénéfice du dopage dans le cyclisme est assez marqué, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres disciplines, notamment l'athlétisme, les disciplines de fond où les manipulations sanguines apportent un vrai bénéfice pour le sportif en termes de performance. Mais il ne s'agit pas non plus de dire que les autres fédérations internationales ou les autres sports bloquent l'évolution des règles. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres instances, internationales, et c'est plutôt des conceptions culturelles anglo-saxonnes, françaises, des pratiques médicales qui font que les corticoïdes, notamment, c'est le principal point de contentieux, ont pas du tout la même perception et le même statut dans ces différentes pratiques médicales, et donc il y a des réticences à étendre l'interdiction sur les corticoïdes. Vous parliez du MPCC, c'est vrai que là c'est fondé non pas sur des règles antidopage, mais des règles sanitaires pour la protection du sportif, en considérant qu'un usage de corticoïdes qui conduirait à une corticosémie effondrée serait dangereux pour un sportif qui subirait un traumatisme lors de la course. Donc c'est pas le même fondement, et c'est en dehors des règles antidopage qu'on a effectivement du mal à faire évoluer sur ce point-là du fait des...
Alors quoi qu'il en soit, ce regain d'intérêt qu'on constate autour du Tour de France, est-ce qu'il n'est pas lié justement à cette confiance nouvelle qui est revenue du point de vue du public pour ce sport après la période sombre, la période Armstrong pour tout dire?
Oui, il serait temps, effectivement, c'est le but d'un programme antidopage que de ramener la crédibilité à la performance. Mmh. Il y a toujours des performances extraordinaires, c'est un peu ce qui fait vivre le sport, c'est ce qu'on veut voir en regardant du sport, et il faut qu'on puisse avoir confiance dans ses performances. Après, il ne faut pas non plus une quête de pureté absolue, on voudrait que le sport, ce spectacle qui fait rêver, soit parfaitement pur. Des contrôles antidopage, une politique de lutte contre le dopage, qui passe par l'éducation également des sportifs, ça vise à réguler l'usage de ces produits. Et on n'aura jamais la garantie qu'il y aura zéro déviance individuelle sur telle ou telle épreuve ou dans tel ou tel sport. Mais le but du jeu, c'est vraiment de ramener ça au minimum et de sortir, de tourner la page du dopage généralisé qui pourrait exister à une certaine époque.
Merci beaucoup Mathieu Théoran, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Nous parlons ce soir de ce 106e Tour de France à 2 jours de l'arrivée à Paris avec une question de Béatrice qui nous appelle de Briançon. Bonsoir à vous Béatrice.
Oui, bonsoir, bonsoir messieurs. Merci de prendre mon appel. Alors ma question, elle portait en fait sur la capacité des coureurs à descendre à une vitesse absolument impressionnante l'école, et notamment l'école alpin.
Plus de 100 km heure.
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai été complètement impressionnée par ce que j'ai vu dans le Galibier, parce qu'on a vu également à la descente de l'Izoard. Je sais à quel point la trajectoire est importante. Bon, on sait aussi la part du mental. Mais ma question est simple. Est-ce que les coureurs, aujourd'hui, suivent un entraînement particulier qui leur permet, au-delà du mental, de pouvoir travailler les trajectoires et atteindre des vitesses qui sont aussi impressionnantes?
Eh ben là aussi, hein, chacun sa spécialité. Qui veut répondre à ça? Il y a les grimpeurs, il y a les descendeurs.
Ouais. Jean-François Bernard.
Oui, exactement. Je crois que il y a des coureurs qui c'est inné. Ils sont sur un vélo, ils savent descendre. Pas forcément les meilleurs grimpeurs.
Julien Alaphilippe, par exemple.
Bah, Julien Alaphilippe, on sait que c'est un super descendeur. On l'a vu encore hier dans le final sur Valoire. Maintenant, oui, ça peut se travailler à un certain moment. On sait qu'il y a des coureurs qui, de fois, ont des tensions. C'est pas facile. Et puis, faut savoir que le jour où on se loupe un peu, souvent, après, on descend un peu moins vite. Hein. Mais non, c'est au départ, c'est inné. Après, bien entendu, il y a la trajectoire, il y a
l'habitude
aussi. Il y a plein de choses. Mais par exemple, vous savez, on connaît des super grimpeurs qui en bas de la descente avait reperdu 2 minutes, mais ça c'est on peut améliorer un coureur, mais on peut pas en faire un super descendeur si au départ c'était pas un
Marc Madiot, vous aviez
travaillé avec Thibaut d'ailleurs.
Thibaut Pinot, qui a malheureusement été contraint à l'abandon aujourd'hui dans ses premiers tours de France, avait des difficultés dans les descentes. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler ça?
On a travaillé.
Comment?
On a travaillé en descente, on remontait en voiture, on redescendait à vélo avec des gars qui faisaient de la descente de vitesse en VTT pour travailler les trajectoires. Et après, c'est aussi une question d'habitude, une question de connaissance du terrain. Il y a beaucoup d'endroits où maintenant, dans l'école, on va faire des reconnaissances. Donc, c'est la descente fait aussi partie des reconnaissances. Et après, il y a l'habitude, il y a la concentration, il y a la confiance. Tout ça, ça se travaille et ça se développe.
Donc, c'est pas seulement inné, alors?
C'est pas que inné, ça se travaille. Mm-hmm. Mais après, vous savez, c'est comme les pilotes automobiles, hein, ils ont le sens de la trajectoire, ils appréhendent et ils connaissent les routes et les différents virages des circuits, ils savent jusqu'où est la limite. En vélo, c'est un peu la même chose, on apprend à cerner les limites.
Question de Yves, qui nous appelle de Limoges. Bonsoir à vous, Yves.
Oui, bonsoir, monsieur.
Allez-y.
Et merci pour vos émissions. Je suis extrêmement... joyeux et content de regarder les étapes du Tour de France à la télé, mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que je vois à chaque étape des coureurs balancer des bidons, balancer des emballages de tout un tas de choses, et pas toujours dans les zones où vous nous rassurez pour nous dire que tout ça est ramassé, mais par-delà les fossés, dans les forêts, et pas juste où il y a des spectateurs pour ramasser les choses.
Oui.
J'ai l'impression que cette grande manifestation sportive est une véritable gabegie de pollution qui ne m'agrée en rien.
Alors on a compris le message, d'autant qu'il y en a beaucoup sur ce thème ce soir. Hein. Un mail de Jacques aussi qui nous dit ne pourrait-on pas prévoir des motos équipées de paniers pour récupérer tous ces bidons, ou bien distribuer des bidons bio dégradables. Qui veut répondre à cela?
Alors avant de donner la parole à Marc Madiot, il y a des efforts qui sont faits par les organisateurs qui ont instauré des zones de collecte. Les bidons sont effectivement biodégradables et il y a même des amendes qui ont été mises en place
pour les coureurs,
pour sanctionner les coureurs qui balanceraient leurs déchets n'importe où. Marc Madiot.
Oui, les bidons, un, sont biodégradables. Deux, souvent, ils sont jetés dans les pieds des spectateurs. Et je puis vous dire que si vous passez derrière une étape quelques heures après la course, je vous mets au défi de retrouver des dizaines et des dizaines de bidons, parce qu'ils sont systématiquement récupérés par des spectateurs dans les zones où on sait qu'on va récupérer ces bidons, les zones qui suivent, les zones de ravitaillement.
En montagne, dans les pentes, c'est plus compliqué quand même.
Dans les montées, mais non, au contraire, c'est au plus contraire. Facile encore de récupérer les bidons. Non, non, je vous assure, hein, y a une véritable recherche auprès de la part des spectateurs pour récupérer les bidons. Et 99,9% des bidons sont récupérés par les spectateurs. Ensuite, les déchets, les coureurs ont des poches dans les maillots où ils les posent, ces déchets. Et quand on rentre dans les zones de déchets, ils peuvent se délester de ces mêmes papiers et détritus qui sont récupérés par un service de nettoyage après l'épreuve. Donc, je pense qu'on peut nous faire beaucoup de reproches, mais de ce côté-là, je considère que le vélo a beaucoup progressé dans la gestion de l'écologie et de la propreté sur le terrain.
Jean-François Bernard ?
Oui, je pense que notre auditeur devrait venir une fois sur une arrivée, par exemple une montée de col, et repasser, rester et redescendre, on va dire, 5 heures après. Cinq heures après, il ne reste pas un papier dans une montée d'arrivée au sommet ou de col. Tout est nettoyé, il y a une équipe de nettoyage qui est assez incroyable.
Et notez qu'aujourd'hui, Yves, dans le parc de la Vanoise, sur la montée de l'Iseran, la caravane publicitaire ne pouvait pas distribuer de cadeaux parce qu'on était dans un espace protégé. Il y a des règles très strictes qui sont mises en place et qui doivent être respectées.
Alors malgré tout, je vous livre quand même cette remarque de Philippe sur l'application France Inter. Est-ce que le Tour de France n'est pas une aberration en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Combien de dizaines de véhicules à moteur sur des milliers de kilomètres, hein? Rappelons que la caravane publicitaire, c'est 20 kilomètres de long, 200 véhicules, 45 minutes de spectacle sur tout le parcours. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça fait partie du folklore, bien sûr.
Très simplement, on peut toujours améliorer les choses. Et je crois que du côté d'ASO et des équipes et des différents compétiteurs, tout le monde essaie d'améliorer les situations. Mais si je vous écoute, on fait plus rien demain matin. Hein. On va plus travailler, on prend plus la voiture, on fait plus de sport parce que le simple fait de respirer va devenir polluant. On fait plus rien. Hein.
Mais la caravane publicitaire est pas absolument indispensable.
Il y a aussi une économie à faire fonctionner. Et puis la caravane publicitaire, faut quand même aussi savoir. On peut faire beaucoup de reproches, mais la caravane publicitaire permet à des jeunes pendant un mois de joindre l'utile à l'agréable, et ils se font de l'argent de poche et ils gagnent un peu d'argent pendant cette période de vacances. C'est aussi un job d'été. Enfin, il y a pas que des mauvaises choses à travers tout ce qui se passe sur le Tour de France. Alors oui, on peut tout supprimer si vous voulez. Hein. On peut tout supprimer, c'est facile.
Allez, revenons aux considérations purement sportives avec Patrick qui sera notre dernier auditeur ce soir. Patrick, vous êtes à Paris.
Oui, bonsoir.
Allez-y, nous vous écoutons.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai une question un petit peu en contrepoint de tout ce qui s'est dit sur nos champions français. Je suis d'accord pour saluer la performance d'Alaphilippe, Thibaut Pinot, voire de Romain Bardet, malgré le fait qu'il soit très, très décevant. Moi, je constate que finalement, le Tour 2019, on n'aura pas de maillot jaune français à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et donc, le résultat, c'est quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas de champion français. Donc, on se souvient pas du numéro 2, du numéro 3, et encore moins du maillot à pois.
On se souvient de Poulidor, quand même.
Ouais, voilà. Oui, effectivement. Mais on se souvient tout d'abord du maillot jaune. Donc, je voudrais ça interroger vos intervenants pour dire mais quels moyens on peut se donner pour faire émerger un champion français qui gagne un Tour de France dans les prochaines années.
Eh ben oui, c'est la question à 1000 francs. C'est Jean-François Bernard, c'est vous qui disiez tout à l'heure, on peut pas le sortir du chapeau comme ça. Hein.
Non, et puis je vais rassurer cet auditeur. Écoutez, j'ai attendu 32 ans avant d'être battu dans un contre-la-montre sur le Tour. Écoutez, j'ai été battu cette année par Alaphilippe. Donc, vous voyez, il faut être encore un peu patient. On va bien finir par y arriver quand même au bout d'un moment.
On va revenir l'année prochaine, on vous le promet. Et essayer à nouveau.
Mais est-ce qu'après un Tour de France comme celui-là, malgré tout, il n'y a pas un afflux de pratiquants dans les écoles de cyclisme, dans les clubs? Est-ce que quand même le succès n'entraîne pas le succès à la longue?
On va voir.
Oui, on va voir, je pense, parce que c'est vrai qu'on a besoin, on a vu que le nombre de licenciés était un peu en baisse ces derniers temps, mais il est clair qu'à partir du moment où vous avez un Français en jaune pendant plus de 13 jours, 14 jours, c'est clair que les enfants, on les a vus encore quand on est allé à l'étape aujourd'hui, à l'arrivée, les tout petits qui montaient déjà, je veux dire, le col avec les parents en vélo ou en VTT, donc il y aura certainement un regain, et puis on a quand même une génération de coureurs qui a quand même prouvé cette année. Alaphilippe a quand même gagné Milan-San Remo. Je crois que Thibaut Pinot l'année dernière a gagné le Tour de Lombardie. Ce sont quand même des courses de référence. Ce sont les plus grandes classiques. Là, cette année, on a les Français ont quand même enflammé le Tour. On peut pas dire le contraire. Maintenant, je sais, mais c'est pas facile, vous savez, de toucher le Graal, comme le disait tout à l'heure Marc Madiot.
Et puis il y a toujours des surprises. On n'attendait pas Julien Alaphilippe. On attendait Romain Bardet. C'est le contraire qui s'est produit.
On a eu Julien Alaphilippe, on a surtout Thibaut Pinot. Hein. C'est quand même lui qui était le plus proche d'aller remporter ce Tour de France. Yves, 1:50, c'était rien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Romain Bardet?
Pour Romain Bardet, peut-être un problème de préparation. Il a peut-être pas mis les choses dans le bon ordre comme il avait su le faire avant. Au contraire de Thibaut Pinot, qui souvent sur le Tour de France avait pas forcément été au rendez-vous. Et cette année, c'est pas Marc Madiot qui dira le contraire. Était allé chercher dans les détails pour tout mettre en ordre pour que ça se passe bien. La blessure fait partie aussi du jeu.
Bernard Thévenet, un commentaire.
Bernard nous a quitté.
Bernard Thévenet est parti.
Il y a quelques minutes, oui.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Parce que on parle de renouveau du cyclisme français, bon, depuis quelques années déjà, mais on avait vu déjà Vauclair en jaune, Pierre Roland en vert, Jean-Christophe Perrault sur le podium, et puis après il y a eu à nouveau des années de vaches maigres. Donc, faut non, pas trop là, s'emballer pas, non plus.
C'est pas vraiment les. On n'est pas sur les mêmes caractéristiques de coureurs. Marc Madiot, Thibaut Pinot, il a le profil du coureur qui peut gagner le Tour. Thomas Vauclair n'était pas dans ce registre-là.
Non, sans faire injure aux qualités de Thomas, il était dans la survie quotidienne pour conserver un maillot qu'il avait été chercher grâce à une échappée au long cours. Donc là, pour la première fois cette année, on avait des coureurs français qui pouvaient toucher le Graal. Et ce qui n'était pas le cas par le passé. On était toujours à 5, 6, 7 minutes du coureur qui avait le maillot jaune. Donc on était dans des luttes pour un accès au podium ou pour un bon classement général. Là, pour la première fois, on se retrouvait dans une situation où on pouvait évoquer le fait d'éventuellement remporter le Tour.
Et le Tour n'est pas fini, rappelons-le. Merci à vous, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard, Marc Madiot et Fabrice Rigobert. Merci à vous donc de nous avoir éclairés sur ce Tour de France, décidément tout à fait atypique.